Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Eric.
Dans l'actualité ce matin, toujours la pagaille attendue dans les trains aujourd'hui. Seule la moitié des TGV circulent en ce week-end de départ. La plupart des syndicats de cheminots refusent d'appeler à une trêve. La grève donc continue contre la réforme des retraites. Les autres titres, Raphaël.
Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, il a fêté Noël avec un peu d'avance hier avec 1000 militaires français à Abidjan. L'occasion d'évoquer la lutte anti-jihadiste au Sahel. Et puis nous parlerons aussi des nouvelles règles en matière de pesticides décidée par le gouvernement. Et puis vous entendrez Justine Brezaz, nouvelle coqueluche du biathlon français, très heureuse de disputer la troisième étape de la Coupe du Monde au Grand Bornand cette semaine.
L'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Il est président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale et il publie son dernier livre, La science au service de l'école.
France Inter.
Décidément un Noël pas comme les autres cette année. En tout cas, certains se souviendront de 2019 comme l'année où il a fallu changer les plans à la dernière minute, celle où il y avait les grèves. Un TGV sur deux assuré en ce premier week-end de départ, 30% des TER en circulation ce samedi. Pagaille annoncée sur les réseaux de train. Caroline Félix, vous êtes à la gare de Lyon. Bonjour Caroline.
Bonjour Raphaël.
Vous voyez du monde, je suppose?
Oui, hein, il y a déjà beaucoup de monde sous les tableaux d'affichage. Il n'y a que les trains prévus qui sont affichés. Ils sont presque tous à l'heure. Ceux qui ont déjà leur billet se pressent au portique. C'est le cas de Naoël. Elle vient de Montreuil avec ses deux enfants. Direction Modène en Italie pour fêter Noël. Elle a son billet pour le tronçon Paris-Valence. Mais c'est pour la suite que ça pose problème. Elle devra prendre trois bus différents.
C'est un gros challenge en fait. Avec les enfants, je les ai réveillés à 3h30 du matin.
On doit y arriver à midi.
Et c'est pas sûr. Tant qu'on n'est pas arrivé, c'est pas sûr.
Parce que vous avez les billets de bus là ?
Non. Ça, il faut le prémonter vraiment à la dernière minute. C'est toujours pas sûr si on arrive aujourd'hui ou demain.
Naoël et ses deux enfants, Jeanne et Adim, ont prévu le coup à cause de la grève dans leur sac à dos. De quoi se distraire ?
Moi, j'ai pris mon portable, un livre, Uno et ma PS Vita.
Moi, j'ai pris des Lego et comme une tablette pour dessiner et des jeux de société.
Et Naoël a donc pu passer le portique sans encombre, mais il y en a d'autres pour qui le voyage n'a pas encore commencé. Devant le guichet d'information, il y avait déjà une trentaine de personnes avant l'ouverture. Ils espèrent se renseigner, savoir si leur train est maintenu ou non. J'ai aussi rencontré une famille sud-africaine qui a appris la suppression de son train hier pour Chamonix. Ils sont un peu perdus, ils n'ont pas vraiment de plan B. On leur souhaite donc bon courage pour la suite.
Merci Caroline. Caroline Félix à la gare de Lyon. Georges Thau était au moyen technique. Et puis à retenir, ces 14 TGV réservés aux enfants, ils partiront demain. La SNCF met ses trains à la disposition des 5000 enfants non accompagnés âgés de 4 à 14 ans et menacés d'être privés de rejoindre leur famille. À en croire le Parisien daté d'aujourd'hui, Emmanuel Macron serait intervenu pour trouver cette solution.
La pagaille dans les trains donc, car la plupart des syndicats de cheminots préfèrent maintenir la grève.
Seule l'UNSA décide d'une pause. La CGT et Sudrail sont sur surprise, ne font pas de trêve, tout comme la CFDT cheminots. C'est un peu plus inattendu, dans la mesure où Laurent Berger, le leader du syndicat, avait appelé à une trêve cette semaine. Rémi Offrère-Pivel, de la branche du rail de la CFDT, comprend la colère des usagers, mais pour lui, la faute revient surtout au gouvernement.
Nous sommes bien conscients de ces difficultés, mais nous déplorons surtout les contradictions du gouvernement, qui a rien fait finalement pour éviter la grève à la SNCF dès le 5 décembre dernier. Et puis, on a déploré l'insuffisance des propositions gouvernementales pour garantir les droits des cheminots au statut qui s'inscriront dans le futur système universel de retraite. Aujourd'hui, on est dans un mode d'action que la Confédération peut considérer au regard de l'intérêt général. Nous sommes ancrer les pieds dans le réel avec des cheminots qui sont à la fois déçus, déterminés, motivés et écœurés. Donc ce sentiment mitigé, cet état d'esprit est vraiment source d'inquiétude pour l'avenir et peut aussi provoquer de nouvelles mobilisations, notamment en janvier.
Rémi Offrère-Pivel de la CFDT Cheminots. Et puis logiquement, ça s'annonce compliqué sur les routes ce samedi. Circulation difficile dans le sens des départs. Bison futé, voie orange.
Loin des grèves et de l'Hexagone, Emmanuel Macron fête son anniversaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire où il est arrivé hier et c'était avant tout pour fêter Noël avec un millier de militaires basés dans le pays. Il a donc dîné avec eux à Port-Bouët. Et s'il a principalement évoqué la guerre contre les terroristes au Sahel, le président a très brièvement prononcé le mot « retraite » dans la commune de Port-Boué, à Abidjan, le reportage de Cyril Graziani.
À 5300 km de Paris, loin de la pagaille des départs en vacances, Emmanuel Macron n'est pas attendu sur le dossier des retraites. Devant les militaires basés à Abidjan, il a néanmoins passé un message pour, au minimum, les rassurer.
Quand on est militaire, on ne touche pas la retraite. On a une pension. C'est différent. Tout est différent.
Parfait. Comment ça va?
Ça va bien.
Ça passe bien?
Oui, très bien.
Ça fait combien de temps?
Depuis 3 semaines.
Ah oui!
Ambiance de fête avant l'heure pour ces troupes mobilisées en permanence dans la région. Certains soldats reviennent du Mali, partis renforcer la mission Barkhane. La France y a payé un lourd tribut fin novembre avec la mort de 13 des leurs. Demain, le président sera au Niger, pays qui a également connu ces derniers jours un massacre de ses troupes lors d'une nouvelle attaque terroriste. Alors Barkhane, c'est une mission essentielle à ses yeux.
C'est aussi pour cela que j'ai souhaité que le 13 janvier prochain, les chefs d'État de la région puissent venir à Pau pour reclarifier à mes côtés le cadre politique et stratégique de l'opération Barkhane. Sans leur engagement politique, nous ne pouvons agir efficacement.
D'abord donc, créer les conditions politiques au Mali et au Burkina pour engager derrière tous les Européens, car certains, aux yeux d'Emmanuel Macron, ne sont pas encore assez actifs dans cette opération. Abidjan, Hélène Anglois, Cyril Graziani, France Inter.
Également dans l'actualité à l'étranger, la réaction américaine à l'enquête voulue par la procureure de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Le secrétaire d'État Mike Pompeo affirme que Washington est fermement opposé à toute action, je cite, contre Israël.
On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Le gouvernement a finalement tranché hier après-midi sur l'usage des pesticides.
Des distances minimales d'épandage entreront en vigueur le 1er janvier. Obligation de répandre des pesticides à au moins 5 ou 10 mètres des habitations pour la plupart des produits, à au moins 20 mètres pour les plus toxiques. Déception pour Nadine Lauverja de Génération Future, association de défense de l'environnement.
Bien sûr, la distance en question qui a été retenue n'est pour nous pas satisfaisante, d'autant qu'il y aura des dérogations possibles. Nous, on s'attendait et on veut en fait des mesures de protection bien plus efficaces que celle-ci. On sait aujourd'hui que les produits se dispersent sur de très longues distances. C'est vraiment l'idée d'un changement en profondeur du modèle agricole qu'il faut bien sûr penser, mais il y a bien sûr des actions à mettre en place à très court terme pour les riverains, ça c'est certain. Donc le compte n'y est pas sur cette question-là. Et sur une autre question qui pour nous est aussi importante, c'est la question de la connaissance des dates d'épandage et des produits épandus. On verra bien ce qu'il en ressort précisément dans les textes, mais a priori, ces dispositions-là aussi sont balayées d'un revers de la main. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des chartes qui ne seront pas du tout ambitieuses, qui ne seront pas du tout protectrices et qui ne permettront pas d'apaiser les relations entre les riverains et les agriculteurs dans les territoires.
Nadine Lauverja de Génération Future, des propos recueillis par Étienne Monin.
Le sport ce week-end, c'est notamment du ski avec la 3e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Ça se passe en Haute-Savoie.
Et avec les épreuves de poursuite aujourd'hui au Grand Bornand chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet, 3e au sprint jeudi, ouvre le bal à 13h. Martin Fourcade attendu également. Et puis chez les dames, Justine Brezaz va s'élancer à 15h comme sa compatriote Justine Simon. Justine Brezaz, 2e du sprint hier, est très soutenue par un public au rendez-vous. C'est elle-même qui en parle au micro de Fanny Lechevestrier.
C'est impressionnant, je trouve que moi je connais pas de lieu. Alors est-ce que c'est parce qu'on est français et que le public donne énormément de voix pour nous, certainement. Mais en tout cas, je connais pas d'autres lieux, sites de Coupe du Monde avec une telle effervescence. Et ouais, biathlète étranger aussi apprécie de venir en France. Et voilà, malgré la météo, les gens se sont déplacés. On est soutenus tout du long. Le tour passe extrêmement vite. Les gens m'impressionnent. Il y a une espèce de une grande ferveur au niveau du public français. Et moi, ça me donne beaucoup de bonheur.
Voilà, 20 000 personnes annoncées aujourd'hui au Grand Bornand.
C'était le journal de Raphaël Delvolvé.